bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Merci Laetitia Gaillet, retour de l'info à midi. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Dernier jour de bande originale, vacances sans avis. Eh oui, c'est les vacances. Ah, ce qu'on était bien, nom de Dieu, sans lui. Et regardez-moi ce casting du jour. Marina Rollman. Tom Dilla.
Bonjour.
Albert Albou. Bonjour. Dans la dernière demi-heure, Tanguy Pastureau pour la maltraitance de l'info. Et bien sûr, à mes côtés, pour la dernière fois ces vacances, Leïla Kadour Boudadi.
Salut Daniel Morin, bonjour à tous. Nos invités dans la bande originale, Marie Gila et Barbara Probst.
Bravo. Casting de rêve pour cette dernière de vacances.
Ouais, bienvenue Barbara, bienvenue Marie, quel plaisir de vous accueillir toutes les deux. Vous allez bien?
Ouais, on est ravis d'être ensemble.
C'est votre première promo ensemble, non?
Absolument.
C'est
ouais.
Vrai? Voilà, une première ici à la bande originale. Et c'est une première pour vous Barbara à ce micro. Donc
mais
on est ravis de vous intégrer dans cette bande originale avec Marie qui nous connaît bien maintenant. Vous venez nous parler de Speakerine, cette série sensation sur France 2, diffusée déjà depuis 2 semaines. Il va falloir attendre lundi pour découvrir les 2 derniers épisodes de cette série qui a reçu un très très bel accueil qui est déjà confirmé par les critiques. Il y a déjà pas mal de papiers qui sont sortis en amont. Alors on va peut-être un peu replacer l'histoire. Qui s'y colle, Marie ou Barbara?
Allez,
on va se compléter.
J'ouvre le bal. La série se passe dans les années 60, 62 plus précisément. Et le titre, donc Speakerine, nous raconte la vie de cette Speakerine, son besoin d'émancipation. On va rentrer dans les coulisses de la télévision.
Christine Beauval, que vous incarnez, une très très belle
vedette.
Femme. Voilà,
voilà.
Grande vedette.
Grande vedette choucroutée.
On parlera des heures de coiffure
oui.
Après.
Et donc on va rentrer vraiment dans ce monde de la télévision, mais le monde de l'intime aussi, puisqu'on va découvrir que son mari, qui est interprété par Guillaume de Tonquédec, est le directeur de l'information de l'antenne de la RTF. On va rentrer dans sa famille. Et donc la série commence. Christine a envie d'autre chose. Elle a envie de créer son émission. Et voilà, elle va évidemment se heurter à des refus,
au machisme ambiant.
Voilà. Et puis le personnage de Barbara, elle arrive de sa province. Et enfin, vas-y, raconte.
Parce que tout d'un coup, à la télévision, ils ont envie de
s'endouvler.
Ouais, voilà,
de jeunesse.
Un peu de 109.
Parce que les vieilles peaux, ça va 2 minutes.
On reviendra sur la condition de la femme à la télévision française. C'est quand même quelque chose.
Et arrive cette jeune speakerine ambitieuse et complexe.
Voilà. Ambitieuse, qui n'hésite pas à tisser des liens assez rapprochés, on va dire, avec la hiérarchie.
Oh, comme c'est bien dit.
Voilà, c'est ça, une sorte de tentative, voilà, d'OPA sur le poste du personnage incarné par Marie Gilin, parce qu'elle souhaite à tout prix être dans la lumière, briller. Finalement, c'est pas tant l'amour de son métier que d'être une star et d'être connue de tous, en fait, qui est la motivation de notre personnage.
Voilà, exactement. Elle a tout d'un coup envie, elle a cette admiration totale pour le personnage interprété par Marie, et elle a envie, voilà, d'y arriver à tout prix, et n'a pas peur, voilà, de chercher tous les moyens possibles pour...
Elle n'a peur de rien, pour résumer, elle a peur de rien.
Qui sait? Mais en tout cas, pas de grand-chose dans le cadre de la télévision.
Alors, il faut préciser que votre personnage, vous, Marie Gilin, est à la tête d'une famille et en a même, d'une certaine façon, la responsabilité, comme à l'époque, on pouvait le faire peser sur les épaules des femmes, même encore aujourd'hui, parfois.
La charge mentale?
C'est même plus de la charge mentale, puisque votre époux, Guillaume de Tonquédec, considère que, finalement, votre place, entre nous, soit dit, est quand même mieux, enfin, ce serait préférable
dans
de rester à la maison,
ouais.
Dans la cuisine, parce qu'il faut
s'occuper. Il est bien gentil de vous laisser travailler.
Ouais,
parce que... Et il faut pas oublier que, enfin, c'est vrai que c'est assez frappant de se rappeler de cette date, que les femmes ont eu le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari en 1965. Mmh. Là, la série se passe en 62. Donc, Christine, elle incarne un peu le glamour parce qu'elle est, elle a la jolie plante verte de la télévision. Mais tant qu'elle continue à faire un bon petit rôti quand son mari rentre du boulot et qu'elle tient bien sa maison et ses enfants, tout va bien. Mais quand elle a envie d'autre chose, qu'elle a envie de son indépendance et de sa liberté, là, ça commence à coincer. Ça lui plaît plus du tout à son mari.
Alors, c'est en plus une histoire qui prend place dans une période connue de l'histoire, c'est la mondiovision. Tout d'un coup, c'est comment la télévision va traverser les frontières, comment cette alliance avec les Américains va révolutionner le monde de la télévision, ce qui intéresse davantage aussi votre personnage, Barbara, parce que c'est une notoriété d'autant plus grande,
bien sûr.
Forcément. Vos enfants, vous, Marie-Gilin, sont quand même assez grands, mais pourtant, il faut quand même veiller sur eux. En tout cas, c'est le message envoyé par votre mari. Le fils, l'aîné, n'a pas été à la guerre.
Guerre d'Algérie.
La guerre d'Algérie, mais il va s'engager à sa façon.
Oui, et évidemment qu'il ne va pas plaire à son père parce que le directeur de l'information, donc à l'époque de la RTF, ouais. En fait la télévision est un outil de propagande pour le gouvernement, et on voit dans la série d'ailleurs que tout le contenu du journal télévisé doit être validé par l'Élysée.
Il est dicté quasiment par l'Élysée.
Il y a un ministère de l'information,
ministère qui lui est dédié.
Ouais, on va y revenir.
Donc évidemment le rapport
c'est que ça fait
entre,
un peu mal.
Entre le père et le fils est extrêmement tendu, puisque le fils a des revendications qu'il ne peut pas exprimer évidemment à son père.
Et que le personnage joué par Guillaume... Oups là, pardon.
Cette
table avait besoin d'être hydratée, donc c'est que t'es pas Barbara.
Mais voilà, le personnage joué par Guillaume...
Comme certains, cette table.
Faudrait-il de l'eau. Mais le personnage joué par Guillaume est un héros de guerre aussi. Ouais. Donc forcément, c'est très compliqué pour lui de voir son fils rester à la maison et ne pas partir en Algérie. Et tout d'un coup...
Et il va s'engager dans l'OAS. Voilà. Et le dernier épisode qu'on a vu, parce que votre mari, vous, a été nommé par De Gaulle. Donc forcément, on voit encore le lien très très... ténu entre le pouvoir, les journalistes et la société en général. Votre fils, lui, décide de faire un autre choix, l'OAS. Et le dernier épisode qu'on a vu lundi dernier, on s'est arrêté sur l'attentat causé par Jean-Claude, le fils du personnage que vous interprétez, Marie-Gilin, qui fait exploser une bombe dans un restaurant où vous dirigez dans ce restaurant, en fait.
Voilà. Vous avez rendez-vous pour déjeuner dans ce restaurant.
Tout à fait.
Avec le personnage de Grégory Fitoussi.
Oui. Qui est le ministre de l'information.
Qui est pas que le ministre, mais qui a un lien aussi un peu proche avec Colette, votre fille.
Oui.
Voilà. Donc on est dans cette situation-là. Donc on attend avec impatience la suite. Alors nous, on a eu la chance de la voir. On ne dira rien. Mm-hmm. Comptez sur nous.
On pourrait peut-être, non?
Ben, vas-y. Si tu veux te faire lâcher, vas-y.
Ça va être à nous de faire attention, de ne pas trop en dire.
C'est ça.
Tom Villa, il paraît que pour bien comprendre ce que faisaient nos invités, vous avez décidé de vous replonger en 1962. C'est ça ?
Vous êtes bien à l'écoute de France 1. Nous sommes le 27 avril 1962 et il est 11h11. Et on va arrêter avec cette voix parce que c'est chiant. Et voici enfin une virgule sonore digne de ce nom. Ça change de vos génériques de sauvage avec batterie et guitare électrique. D'ailleurs, la guitare électrique, quelle foutaise, ça marchera jamais. Hein. Il faut une enceinte appelée amplificateur, une prise électrique à portée de main. Vous imaginez pendant les concerts avec la rallonge de 20 mètres de la tondeuse à gazon. C'est impossible. Et pourquoi pas un piano électrique pendant que vous y êtes. Comme le rappelait mon voisin et sociologue Pierre Guetta, qui est un petit Bernard âgé de 5 ans. Moi, les instruments électriques, jamais dans ma famille. Non, une bonne guitare classique, hein, comme dit Brassens, ça change pas le monde, mais ça y contribue. Il était sous la douche quand il a dit ça. Pour être totalement transparent, je suis personnellement passé au ministère de l'Information juste avant de venir dans les studios. Je voudrais saluer au passage la liberté qu'il nous laisse et souhaiter la bienvenue à Alain Pierre Fitte, fraîchement nommé par notre nouveau ministre Georges Pompidou depuis 15 jours. Alors pour balayer les rumeurs au ministère, il jette un coup d'œil, il relise les papiers et réorganise l'ordre des journaux, mais vraiment nous laisse une liberté de travail extraordinaire. Je constate d'ailleurs que le présentateur Arabaou Faraoni, qui est là d'habitude, est rentré dans sa péninsule. Hein, quand faut bosser pendant les vacances, il n'y a plus personne. De toute façon, on sait bien que ces gens-là, ces farnientes, étaient à la menthe. Attention, pas de méprise. J'ai moi-même un très bon ami d'Algérie française, Rachid, d'une gentillesse et d'une drôlerie. Oh, l'autre jour, il me disait, tu sais, le mouvement de l'histoire, c'est que l'Algérie devienne indépendante. Qui est con. De toute façon, il fait de très bons tagines, mais ils ont aussi de l'humour. Un tagine, finalement, vous voyez ce que c'est ni plus ni moins qu'un couscous, mais sans la semoule. Et un couscous, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas en 62, c'est comme un petit salé aux lentilles, mais à la place des lentilles, vous mettez de la semoule, et à la place des saucisses de morteau, des merguez. D'ailleurs, Maura, tu ne présentes pas la speakerine qui t'accompagne.
Oh, Leïla Kadour est journaliste. Monsieur.
Laetitia Latour, quel charmant prénom.
Kadour, on travaille d'égal à égal à la présentation de cette émission très très populaire.
qu'il est con, d'égal à égal. Oh là là, c'est tout autant d'honneur en tout cas de vouloir mettre en avant les gens de l'ombre, laisser un peu de lumière à celle qui prépare toutes ces fiches. Quelle drôle d'idée, sacré mort, hein. L'égalité aux femmes, une de tes meilleures boutades. Comme l'info où tu m'as dit qu'une révolte étudiante était possible en France. On est en 62, mort. Hein. Les étudiants qui commencent déjà à ranger leur chambre et à se peigner convenablement. On verra après pour les revendications. En plus, avec cette mode du yéyé qui arrive, là, ils ont les cheveux gonflés et l'esprit aussi d'ailleurs. Depuis la démocratisation de l'aviation civile depuis 10 ans et qu'ils peuvent aller à New York en moins de 10 heures, ils pensent que le monde leur appartient. Les yéyés, je vous jure, des jupes trop courtes et des pantalons trop longs, ça n'y rien y comprendre. À la radio, d'ailleurs, j'ai entendu la chanson des chaussettes noires. Quelle vulgarité. Heureusement, je crois que leur leader, Eddie Michel, a été appelé sous les drapeaux. Ça va lui faire les pieds. Et Dieu merci, nous l'entendrons plus jamais. Et d'ailleurs, d'après mes informations secrètes, une nouvelle revue est en préparation pour l'été prochain. Elle devrait s'appeler « Salut les copains ». Voilà, tant de familiarité d'un coup. Ça informerait les lecteurs sur l'actualité des chanteurs préférés de la jeunesse. Qui ne seront que de passage, je voulais mon avis. J'ai entendu le mois dernier la chanson Naboo Twist d'un certain Coco. Guy Béat a encore de belles heures devant lui. Tiens, Laetitia Latour, mon petit, si vous pouviez m'apporter une suze bien fraîche, je vous serais gentille. Hein, en attendant, on est en 62, les femmes mariées doivent demander l'avis de leur mari pour travailler. Vous avez le droit de voter depuis 18 ans, soyez heureuses.
Elle a ma bénédiction.
Et pourquoi pas une femme élue à l'Académie française pendant qu'on y est. Allez, je rends l'antenne, je me grille une gitane maïs et je vais reprendre le métropolitain. Bonne émission, moi, et bon courage, Laetitia.
C'était Tom Villard.
La bande originale. Vous savez, ce qui est assez troublant dans cette série, c'est que ce retour dans le passé qu'on n'a pas connu, c'est découvrir aussi l'univers de la télévision et ce travail assez incroyable, méticuleux sur les décors. Est-ce que, même sur les tenues, sur la façon d'être, de se tenir, j'imagine qu'il y a eu aussi tout un travail de direction d'actrice de ce point de vue-là.
Tout est dans la gaine.
Tout est dans la gaine
et les pantjartels.
C'est quoi la gaine? C'était, vous portiez,
on avait vraiment des gaines parce qu'on avait un créateur costume qui est vraiment très très talentueux. Mais
on avait toute une équipe d'ailleurs, voilà. Formidable.
Et il a le souci vraiment du détail, ouais. et rien que, je sais pas, pour le fétichisme lié aux années 60, il avait envie qu'on porte des gaines, et ce qui était vachement
et
bien
pour la, oui, pour la tenue, parce que tout d'un coup, on peut pas s'asseoir de la même façon, on peut pas manger de la même façon.
Vous voulez dire que c'est très rigide ou très serré?
Très serré,
ah, bah,
oui.
Et puis ça donne un maintien particulier, une façon de s'asseoir, une façon de marcher dans la rue.
Tout comme ces petits talons d'ailleurs, les petites chaussures avec les petits talons, tout d'un coup ça force à des petits pas un petit peu voilà, sautillants et légers. Donc tout est amené comme ça.
Et vous avez visionné beaucoup de, je sais pas, de speakerine de l'époque. Quelle est votre référence à vous, Marie Gillin? Parce que j'avoue que vous êtes vraiment très charmante quand vous faites cet exercice avec cette voix doucereuse, vous nous le ferez peut-être tout à l'heure. Ce salut des femmes, des demoiselles et des messieurs également. Il y a un truc très, très réaliste.
Mais ce qui est joli, c'est le phrasé de l'époque, ouais. Qui était beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Chaque mot avait son importance, était bien choisi. C'était le bon temps. Moi, j'ai regardé pas mal Catherine Langer, ouais. Et aussi évidemment Denise Fabre, ouais. Parce qu'elle avait cette pétillance et ce cœur, cette empathie. J'avais aussi regardé un reportage où oui, on voyait Simone Signoret dans les grands magasins qui interviewait toutes les femmes. Donc c'était super, parce qu'on voyait vraiment toutes les classes sociales confondues. Pour moi, c'était plus ou moins ça.
Ouais, moi, j'avais essayé de me concentrer. Il y a pas mal de vidéos sur Lina, notamment, tout ça, de jeunes speakerines en audition qui viennent préparer pour tenter d'entrer à la télévision. Et d'ailleurs, il y en a des complètement improbables. Il y avait Nicole Garcia qui avait auditionné aussi un peu plus tard, c'est dans les années...
L'actrice et réalisatrice.
Pour devenir speakerine. Et c'était,
tu ne t'es pas fait une amie, là.
Non, mais elle est formidable parce qu'elle fait ça très bien. Elle essaye, elle est toute jeune. Et le ton paternaliste des castings, je sais pas comment on peut dire.
Des casteurs qui sont autour d'elle.
Autour d'elle, voilà. Et qui, évidemment, n'a aucune idée de la merveilleuse comédienne et réalisatrice qu'elle va devenir. Et qui, tout d'un coup, ce ton qui est encore... Mais je crois que c'est 20 ans après... après notre série, mais ouais, c'est encore très ancré, quoi. Et c'est l'image de ces speakerines qui devait être absolument parfaite.
Alors ça donne quoi, Marie Gillin ou Barbara Props qui présentent les programmes?
Mais on s'est bien écouté toutes les. Moi, j'aime beaucoup quand Barbara dit dans la série, elle dit Rintintin.
Oui. Vous allez retrouver votre émission avec le personnage Rintintin.
On s'y croit. Nos chers petits amis.
Mais c'est ça, il y a tout un son, il y a un accent. Moi, j'ai beaucoup grandi. Enfin, j'ai grandi à Paris, et c'est vrai que cet accent parisien des années 60 qu'on retrouve dans, voilà, dans tous ces films. Moi, je suis une grande femme de tout, voilà, toute cette époque. Et c'est vrai qu'il y a un phrasé qui est brillant, quoi, qui est tout d'un coup... cristallin et un petit peu nasillard et voilà, non, c'est assez...
Et la préparation coiffure, ça c'est pareil, parce
c'est que bon,
Marie, vous êtes sacrément choucroutée. Non mais c'est vrai. Alors moi j'adore le petit détail qui fait que quand on prend le téléphone, on enlève sa boucle d'oreille à clip. Là tout d'un coup on est replongé dans une époque, c'est un geste qui renvoie vraiment à tout un imaginaire.
Il y a toute une gestuelle extrêmement élégante qui est due aussi à des contraintes, comme on disait, notamment la gaine.
Arrêtez avec le gobelet.
Oui, c'est ça, je vais
vous confisquer l'eau.
Viens confisquer le gobelet, Barbara, ça va vous donner une paille. Il n'y a pas de souci.
C'est des coupes en cristal, je suis navrée. C'est plastique. Mais du coup, non, c'est vrai qu'il y a toute une gestuelle magnifique et qui est... Donc, enfin, je pense qu'on est heureux de ne plus avoir ces contraintes et d'avoir une liberté de mouvement, de vie, de femme, aujourd'hui. Mais en même temps, il y avait une élégance particulière et un...
Mais pour quand on est comédien, c'est savoureux. Moi, je sais que j'ai toujours eu un fantasme, c'est de prendre un vieux téléphone noir, le cornet, quoi.
Oui.
Je tripais, donc j'étais dans tous mes états
dans
le jour où j'ai...
Il y en a ici.
Voilà, où j'ai dû prendre ce téléphone. Je pense que c'était mon meilleur moment de toutes les semaines de tournage. J'ai adoré.
Si vous êtes réalisateur et que vous voulez engager Marie-Gilla, vous mettez un vieux téléphone dans sa loge, elle signe tout de suite.
Et puis les voitures et tout, tout ce qui va avec. Et puis il y a vraiment un détail, on a eu des équipes magnifiques.
Ils étaient aussi vieux d'ailleurs, c'était d'époque.
Oui, c'est ça, on était les conseillers. Il y avait des conseillers historiques, j'imagine, aussi, sur la série, qui vous ont un peu encadré, ou alors qui ont simplement participé à l'élaboration du scénario.
Michel Drucker était là ou pas?
Non, il faut dire que notre productrice, Charline Delépine,
connaît son sujet.
Elle connaît vraiment son sujet, elle le porte depuis vraiment très longtemps, et régulièrement, d'ailleurs, elle nous envoie, elle est trop mignonne, des petits mémos en disant « Attention, n'oubliez pas ça, à telle date, il s'est passé ça.
» Il faut préciser que la série a été réalisée par Laurent Tuel. J'aime pas préciser le casting, mis à part vous, Marie, et vous, Barbara, Guillaume de Tonquédec, on l'a évoqué, Grégory Fitoussi, Christiane Millet, Anne-Sophie Soldani, Baptiste Carion, Baptiste Carion-Weiss, Clément Aubert, Jean-Yves Châtelet, Benjamin Bourgeois et Flanan Aubé. Au-delà de cette immersion dans les années 60, dans cette France un peu particulière où, en effet, l'Élysée dirige absolument tout, c'est aussi une série haletante, puisque on a une tentative de meurtre, en tout cas votre personnage, vous Marie Gillin, est menacé. Et donc il faut déterminer qui vous en veut au point de vouloir vous tuer ou de mettre en péril votre carrière ou l'histoire de votre famille en gros. Donc, et c'est vraiment très haletant. Ça, la lecture, vous l'aviez senti déjà?
Oui, c'est ce qui m'a plu, c'est qu'on a, vraiment plusieurs aspects dans cette série. On a l'aspect immersion dans les années 60, les coulisses de la télévision, et on a cette intrigue policière qui démontre que, évidemment, cette image de papier glacé, la Christine Beauval, le speakerine, suscite forcément de l'amour, des fantasmes, mais aussi de la haine. Cette intrigue, elle est fondamentale. Il y a aussi un aspect qui est très romanesque, parce qu'il y a aussi cette émancipation qui passe par la liberté de cette femme qui était une épouse et qui devient une femme un peu libre.
Qui s'autorise à tomber amoureuse, à aussi se rendre compte que son quotidien ne lui convient pas forcément.
Elle perd les pédales, quoi.
La crise de la quarantaine.
Elle dévisse.
Non, auprès d'un charmant journaliste et qui essaye de ne pas se faire lui aussi museler par le pouvoir. Parce qu'il y a aussi cette émancipation-là. On sent qu'il y a l'émancipation de la femme et que c'est une période aussi où les journalistes tentent, tant bien que mal,
d'imposer
leur liberté à eux.
D'expression.
Ce qui a tardé à venir. Je vous rappelle quand même cette phrase assez drôle. Un ministère de la condition féminine et pourquoi pas un sous-secrétariat au tricot. C'était Charles de Gaulle quand même pour donner un petit état d'esprit des années 60. Il ne faut pas déconner. En même temps, aujourd'hui, on n'en est pas forcément toujours bien loin. Quand on voit que les ministères de la famille ou de l'enfance se sont confiés uniquement à des femmes.
Ce qui est très intéressant avec cette série aussi, c'est le miroir que ça nous renvoie. Enfin voilà, elle est projetée en 2018 et il se trouve que tout ce qu'on entend fait référence existe encore aujourd'hui. Peut-être moins, peut-être un peu dissimulé. On a l'impression que on a acquis tous les droits, que tout est... Voilà, mais non, que ce soit d'ailleurs sur la femme ou sur l'information, effectivement.
Et puis même ça... si maintenant les femmes ont tendance à trop parler, elles ont parfois aussi les oreilles qui sifflent comme vous, Leïla, quand vous avez su que nos deux invités étaient Marie et Barbara.
Oui, quand je pense à vous, Marie et Barbara, je pense à un comédien, à un metteur en scène que vous avez en partage.
J'ai eu une chance extraordinaire dans ce métier. C'est d'arriver globalement, en tout cas, on va dire depuis une quinzaine d'années, à faire au théâtre ce que j'ai réellement envie de faire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans le paysage du théâtre français, c'est un luxe absolument extraordinaire et en plus, une liberté phénoménale.
Liberté et luxe, Nicolas Briançon, que vous avez, qui vous a engagé, Barbara, c'est dans Volpone.
Absolument.
Aux côtés de Roland Bertin.
J'avais vu cette pièce.
Ouais, c'était très beau, c'était très très réussi. Et Marie, vous avez joué auprès de Nicolas dans La Vénus à la fourrure. Cette liberté et ce luxe dont il parle, c'est ce à quoi aspire tout comédien. Vous aussi, c'est vous retrouvez dans ces propos-là. C'est ce que vous vivez déjà.
Oui, complètement. Moi, je ne peux pas m'empêcher quand j'entends Nicolas, qui est un grand metteur en scène, quelqu'un de très reconnu, mais avec Nico. Voilà, Nicolas, pour moi, c'est Nico. On était là. Moi, j'étais avec ma guépière, mon corset dans les coulisses.
Déjà,
c'était plutôt, les rôles étaient plutôt inversés. Vous voyez, moi, j'étais plutôt en train de me gratter les couilles.
Non, Marie, qu'est-ce que tu
c'est
se passe?
C'est une information ou c'est.
Prenez-moi, j'étais en train de boire un petit coup d'eau.
Mais si, c'est le
gobelet. T'as failli avaler ton sachet de thé. Donc,
t'as vu une semaine le féminisme. J'espère que Marlène Schiappa n'écoute pas.
Oui, Marie.
J'ai dit d'une façon effectivement un petit peu
non, mais c'était imagé.
Comparse de jeu. Bon, je m'enfonce encore plus.
C'est vrai qu'en plus, toi, c'était un vrai. Enfin, c'était. Vous jouiez tous les deux.
Oui, j'ai pas été dirigée par Nicolas.
Et c'est vrai que sur Volpone, notamment, il jouait, mais il mettait en scène. Et c'est vrai que c'était. C'était extraordinaire parce qu'il a toujours il a un tel amour du théâtre et une telle passion. Et c'est un grand homme du théâtre et très doué. Et il se met à notre hauteur. Enfin, moi, c'était mon premier spectacle. Il m'a vraiment engagée. Il m'a jetée sur scène. Et c'était un vrai camarade. Enfin, c'est quelqu'un qui, tout d'un coup, est toujours bienveillant, a toujours un œil. Enfin, c'est un génie pour moi parce que pour réussir à avoir cette distance en même temps de jouer.
En étant à la fois sur scène
et jouer Mosca, qui a un rôle extraordinaire dans Volpone, mais très présent et très, très riche aussi. Donc, pour réussir à gérer son équipe, à tenir une équipe, à créer une troupe, c'était. C'était formidable.
C'est étonnant ce que vous dites, parce que quand il vient, elle est assez désagréable.
Oui.
C'est juste un détail.
C'est
très étrange.
C'est pas vrai. Comment vous parvenez-vous, Marie, à gérer cette notion de liberté parce que j'imagine que parfois, est-ce qu'on est obligé d'accepter certaines propositions? Est-ce que vous parvenez maintenant, vous qui avez quand même une grande carrière derrière vous, à être dans ce rapport de liberté, dans le choix?
C'est une question complexe parce que très honnêtement, on a tous, oui, la liberté absolue. Je suis pas sûre qu'elle existe parce que il faut bien aussi vivre, nourrir sa famille.
Parce que certains comédiens à ce micro disent non, je ne fais que ce dont j'ai envie.
Oui, mais dans le discours, je suis tout à fait d'accord. Dans la pratique, je dirais que la vie est longue et elle est faite de d'aléas, on va dire.
Ouais.
Moi, j'ai plutôt toujours réussi à faire ce que j'avais envie de faire, et c'est vrai que c'est notre espace de liberté, nous comédiens, puisqu'on dépend toujours du désir des uns et des autres. Donc, pouvoir choisir ces projets, c'est quand même un luxe, faut pas l'oublier, mais c'est aussi un atout, parce que c'est comme ça qu'on va vous juger, et c'est ça qui va faire qu'on va vous désirer ou pas. Mais après un certain nombre de films ou de projets, c'est vrai que c'est très bizarre. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt à me dire chaque projet doit être une question de vie ou de mort. Ça doit être quelque chose de totalement vital. Et à un moment donné, on lâche un peu ça et on se dit mais j'ai envie aussi de travailler, de faire mon métier. Et plus on lâche, finalement, plus on a des projets qui correspondent réellement à ce qu'on a envie de faire.
Puis le rappel des impôts, tout ça, voilà. Il faut faire des choix. Hein.
Non, mais c'est également le cas de votre personnage dans Speakerine. C'est aussi de se dire voilà, maintenant je veux aller vers telle direction, affiner. J'ai fait un temps, je profite de ma notoriété et j'ai ma liberté maintenant de choisir exactement ce dont j'ai envie avec ce magazine pour les femmes. C'est un peu le parallèle avec votre personnage.
Oui, c'est un peu différent parce qu'elle est un peu dans une espèce de cage dorée au départ. D'ailleurs, on la surnomme un peu la reine Christine parce qu'elle est, c'est quand même une femme assez bourgeoise qui n'a jamais été heurtée à la violence de la vie. Et d'ailleurs, c'est assez joli parce qu'on va voir que dans son parcours d'émancipation vers sa liberté, elle va vraiment découvrir qu'est-ce que c'est la vie de l'époque
pour une simple femme.
Voilà. Ouais. Et en même temps, elle a envie de donner la parole aux femmes. Elle a un profond sens de l'empathie, mais cette quête de liberté n'est évidemment pas du tout bien perçue dans un monde qui était plutôt très très masculin.
Et déjà en préparation, on a déjà plusieurs portraits qu'elle imagine avec certaines femmes, et puis elle craque avec la mère de quelqu'un qui va être condamné injustement. Plutôt.
J'ai cru que vous alliez me faire une grosse vanne, et du coup,
c'est très troublant quand il pose une question sérieuse.
C'est
une fois par semaine, ça tombe sur moi. Désolé.
Donc, du coup, on va laisser la parole à une autre femme. Angèle, Je veux tes yeux, France Inter, la bande originale. On est ensemble jusqu'à 12h30. Moi, je vais préparer une grosse vanne avant Marie-Gina.
Pardon, je suis désolée.
J'y vais, je la prépare. À tout de suite.
Je veux tes yeux. Que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Que tes beaux yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoire. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux.
Angèle, je veux tes yeux dans la bande originale sur Inter. Et aujourd'hui, nous recevons Marie Gillin et Barbara Probst pour Speakerine. Je vous rappelle que les deux derniers épisodes sont à voir lundi à 20h55. C'est sur France 2.
Oui, il ne reste plus que deux épisodes.
Que ne loupez pas ces deux épisodes.
Christine, la reine Christine, cette célèbre Speakerine, on est en 62. Qui a fort affaire entre son mari un peu macho, sur les bords complètement macho, on va le dire comme ça.
Non, de l'époque.
Oui, de l'époque, voilà, c'est vrai. Un homme de son temps, jus. Absolument, dans son jus, si tu veux, c'est Tom Villa, c'est pas mal. Et qui est aussi, qui doit faire face à une rivalité grandissante. Ce personnage incarné par Barbara Probst, cette nouvelle speakerine Isabelle, voilà, avec un nom d'ange, qui s'est bien trompé son monde, et qui va s'avérer être une menace réelle pour le personnage incarné par Marie Gillin. Voilà pour replacer deux épisodes.
Qui doit gérer
donc
aussi son coup de cœur, qui doit gérer aussi ses enfants.
Elle a une vie sentimentale, elle peut être mère et femme, elle n'est pas simplement épouse de. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Et la vision qui arrive.
Comme elle le souhaite.
Mais il ne faut pas m'inviter le matin si tôt. Il y a des mots qui sortent, je ne contrôle pas.
Il était 11h22, ça peut. Ça même. Si vous vous levez tard, ce n'est pas notre problème.
Une très bonne série réalisée, il faut le dire, par Laurent Tuel, avec un vrai souci du décor, du détail. Vous êtes vraiment plongé dans ces années 60. Pour tous les nostalgiques, ça va vraiment faire du bien. Les voitures, la musique, même il est question de musique, des premiers disques, enfin en tout cas des disques de.
Et pour les plus jeunes aussi qui tout d'un coup découvrent, parce que c'est drôle. Moi j'ai, enfin on n'a pas ni Marie ni moi ni vous connu cette époque.
C'est
sympa. Voilà. Mais c'est vrai que tout d'un coup, enfin il y a une espèce de on a tous une espèce de nostalgie aussi. De ce temps, de ces. Voilà. Donc c'est agréable.
En vrai, vous
plonger.
N'avez pas vécu cette époque.
L'Algérie française.
Mais ça, c'est une époque un tout petit peu moins. Qui rend un peu moins nostalgique, on va dire. Les événements. L'OAS, notamment en France, et les événements, comme on les appelait à l'époque.
Ça, c'était pas ce qu'il y avait de plus mauvais.
Oui, c'est ça. Merci, Maréchal. Merci à vous.
Si on laissait la parole à une autre femme. Ah, bah oui, pourquoi pas.
Ah bon,
l'humeur de Marina Rollman.
Ah, oui, Marina.
Vous sentez, les amis, depuis quelques semaines, le chômage qui baisse, le bonheur des Français qui remonte, quelque chose dans l'air, il y a une certaine joie de vivre, un espoir retrouvé, une nouvelle vigueur qui n'est pas sans rappeler ce qu'on ressent pour la cocaïne qui arrive vers 6h du matin chez Leïla, alors qu'on commence tous à piquer du nez et que bientôt la guerre fera rage pour savoir qui prend le canapé et qui dort dans la cuisine, sur un tapis de fortune fait de cahiers du cinéma et de cheveux de Laurent Delahousse, qu'elle a péniblement récolté sur la brosse de celui-ci après avoir forcé la porte de sa loge à France 2 en criant « Je vous jure, je le connais !» Mais donc ce parfum de renouveau dans l'air, c'est parce que la France sent que bientôt j'emménage. Et oui les amis, bientôt j'arrête les allers-retours hebdomadaires avec ma fille adorée, bientôt je ne serai plus cette présence furtive dans l'hexagone comme un père absent qu'on adule parce qu'il nous fuit. Non, bientôt je serai là tout le temps et vous aurez tout le loisir de vous lasser.
C'est génial.
D'abord ce sera des détails, la France arrêtera de s'épiler et puis moi je passerai de plus en plus de temps à l'étranger. Et puis un jour la France regardera les photos dans mon portable et elle verra des dizaines de photos de l'Espagne. Elle me demandera de m'expliquer mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi cette traînée une dizaine de degrés. Et on se quittera comme ça avec la France. Je lui rendrai ma carte vitale, elle sourira émue, on se prendra une dernière fois dans les bras et on se laissera sur ce quai de gare et puis je finirai par faire du stop parce qu'il y aura la grève. Mais enfin, on n'en est pas encore là puisqu'avant de pouvoir emménager, il va falloir que j'ouvre un compte bancaire en France, les amis. Et oui, mais pour ouvrir un compte bancaire en France, il faut être résident. Et pour être résident, il faut un compte bancaire en France. Vous la voyez arriver un petit peu la situation qui te brise les ovaires et c'est que la partie immergée de l'iceberg. En vrai, en essayant d'emménager chez vous, je suis en train de découvrir la magie de l'administration française. Oh, franchement, je pensais que votre point fort c'était la gastronomie et le collaborationnisme, mais en vrai, oh, le gros artisanat hexagonal, c'est de chier dans la colle à chaque fois qu'il faut faire une démarche administrative. Oh, j'avais eu un avant-goût de la chose avec votre passion du RIB. Le RIB, pour les auditeurs qui ne vivraient pas en France, c'est donc le relevé d'identité bancaire. C'est un papier qui permet de vous faire un versement. C'est comme une carte de visite, en somme, mais avec des informations qui ont trait à ton compte bancaire. Et comme on n'a pas de RIB en Suisse, eh ben, je donnais aux gens mon nom, mon adresse, mon IBAN, mon code BIC, mon code SWIFT, qui sont les informations qu'on trouve sur un RIB. Et voilà, je me disais, la vie peut continuer. Bah sauf qu'à chaque fois, on m'a rétorqué, ah non, mais il nous faut le RIB. Et j'essayais de leur dire, certes, ce n'est pas un RIB, mais c'est tous les éléments d'un RIB. Non, sans rappeler le proverbial, vous avez de la pâte, vous avez du sucre, vous pouvez faire un putain de paiement. Et on me disait, oui, non, mais il va nous falloir le RIB. Et donc, à ce moment-là, commençait la strangulation, qui permet de réaliser qu'on peut aisément apaiser une personne qui vous demande un RIB en la privant pendant 2 ou 3 minutes d'oxygène. Cela dit, j'ai des petites mains, je peux pas m'atteler à rendre violet tous les décérébrés du cul de l'administration française. Et puis finalement, votre amour de la paperasse, je trouve que c'est un peu touchant parce que je pense que c'est le signe d'une nostalgie chez vous. Ce fait qu'on adore cette économie de papier. Le fait qu'accéder au logement, au travail, à l'argent, ce soit pas aisé pour le premier venu, c'est votre petit reste d'aristocratie finalement. Ça permet de filtrer les gueux. Mais donc moi, faute d'une lettre de recommandation du duc d'Anjou, je suis toujours prise dans ce tourbillon métaphysique de la poule et de l'œuf, tu vois. Il faut que j'habite là pour avoir une banque, il faut une banque pour habiter là, etc. Et donc je me disais, Leïla, si on pousse les cheveux de la housse, elle ferait pas une coquette chambre d'amis, ta cuisine, quand même. Merci. 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 La
bande originale. Mais c'est une honte, c'est une honte ce papier. En 62, il n'y aurait pas eu de papier comme ça.
Tu n'aurais pas eu la parole, ma chérie. Non. En 62, comme ça, c'était réglé.
Bah, on a ton mari, Tom Villa. Grâce à qui tu vas pouvoir rester en France et ouvrir un compte s'il te autorise.
Et peut-être. Ah,
mais, tu aimes le Crédit Agricole, c'est formidable, ça, tu vas voir. Madame Bounier, elle est très gentille.
Bonjour, Madame Bounier, de la voix, nous écoute.
Bon, bah, très bien.
Allez, la musique avec la bande originale de nos invités. Attention, mesdemoiselles. Quelques dates clés de vos parcours. On commence en 1989 et vous, Marie-Gélin, vous écoutiez.
Tout va très bien, madame la ministre.
Ouais. C'est pas que j'ai. On m'entend là,
non. On est à fond dans le disco. Ouais. Hein.
Quand c'est rouge, on vous entend.
Ah oui.
Attention, ça a joué les tours à certaines.
Non, c'est que je faisais du théâtre dans un atelier théâtral et c'est notre premier spectacle, Cabaret de Réventura.
Réventura, un génie.
Voilà.
C'était à Liège.
C'était à Liège.
C'est ça.
C'était à Liège.
C'était à Liège et c'était quoi le rêve absolu à l'époque, faire du théâtre?
Oh bah c'était mon quotidien parce que j'étais dans un atelier théâtral. Nous sommes d'ailleurs allés au Québec où j'ai signé mon premier autographe dans une école d'un petit village au Québec où nous étions représentés avec Réventura. Et c'était génial pour une jeune comédienne faire chanter des chansons de Réventura dans une pièce de théâtre. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime, la comédie musicale.
Je crois que votre premier casting, Marie-Gélin, c'était pour Impasse de la Vignette.
Oui, oui, oui. Premier casting échoué d'ailleurs. J'avais envoyé mes petites photos, on m'a jamais rappelé.
Mais après, ça se passe bien, très très rapidement après, puisque vous tombez sur une annonce aussi pour un autre casting.
Oui, pour mon père, ce héros, où ouais. J'envoie des photos de moi en maillot de bain, où je découpe mes parents, je les enlève de la photo.
Vous avez bien fait.
Je crois que vous avez
votre
essayé.
Père se grattait. Non, je pose la question.
Non, mais c'est pas vrai.
Mais non, mais peut-être, du coup, voilà.
C'est la thématique de l'émission.
N'essayez même pas, j'ai décidé d'être très sobre. Je vais être très classe et très sobre sur toute la fin de l'émission.
Il nous reste trois quarts d'heure en même temps.
Et vous, Barbara, à la même époque, vous écoutiez. Alors, qu'est-ce qu'on écoute là, Barbara?
Alors, on écoute une pièce symphonique de mon papa, qui est compositeur et qui a écrit cette œuvre qui s'appelle L'île de lumière.
Dominique Probst,
Dominique
votre
Probst,
père.
Mon papa, ouais. Absolument. Et qui. Alors, cette pièce-là est en fait un petit peu plus vieille que ouais. 89. Mais voilà, moi je suis née sur la musique de mon papa, puisqu'il jouait au théâtre une de ses musiques le soir de ma naissance, en 89.
En 89, voilà, c'est un chaton.
Voilà. Donc cette pièce qui est pour moi très importante, parce que l'île de lumière, il parle de l'île de Ré, qui est très importante dans mon cœur et dans ma famille. Donc
alors vous, votre père donc compositeur, votre mère comédienne, Catherine Chevalier, vous êtes la petite fille de Gisèle Cassadessus.
Ouais. Absolument.
Et donc vous êtes vraiment née dans l'univers du spectacle. Votre sœur est chanteuse lyrique, j'ai eu l'occasion d'entendre il n'y a pas très longtemps.
Elle s'appelle Annie Cordy.
Exactement, qui a travaillé avec Marie d'ailleurs.
Tatiana Probst, qui est vraiment merveilleuse. Vous avez grandi dans cet univers très ouvert, très artistique.
Donc, oui, alors on a toujours eu le choix, on n'a pas été forcés, ouais. mais c'est vrai qu'on commence... On commence par la musique. Ma grand-mère a toujours aimé dire qu'on savait lire dans la famille Cassadessus, on savait lire les notes avant de lire les lettres. Donc voilà, on commence tôt.
Elle vous a emmené au théâtre, vous l'accompagnez?
Mais je pense qu'on c'est même au-delà de nous emmener au théâtre, on accompagnait, on a grandi dans les loges et dans les couloirs, donc un peu comme tes enfants, Marie, je pense.
Oui, le mien c'est un peu plus cloisonné. Ouais. C'est pas, je les emmène pas partout, mais j'imagine bien.
Nous, on a beaucoup suivi. Ouais, c'est vrai que voilà, ma grand-mère qui était donc à la Comédie Française et on a grandi dans ces couloirs. Ouais. Voilà. Donc
oui. Forcé
de découvrir ça et de les voir faire ce métier avec passion. Bah, on suit, c'est vrai. Tout d'un coup, voilà, on a envie. Moi, mes premières envies de jeu. Et c'est drôle d'ailleurs parce que ma sœur, par exemple, avait envie tout de suite de musique et moi, je savais que ce serait le jeu.
Ouais, vous la êtes comédie, répartis un peu les domaines à toutes les
exactement.
Deux.
Exactement. Tout en ayant fait, d'ailleurs, on joue ensemble et on inverse et on cède et parce que c'est quand même des domaines très
très proches, ouais.
Très proches et très complémentaires. Donc, mais c'est vrai que c'était très clair de vouloir faire ça. Jusqu'au moment où on en vient au doute, quand ça devient ouais. sérieux, de se dire mais est-ce que j'ai vraiment choisi, est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que je suis avec Nicolas, j'avais fait une espèce de crise
Nicolas Briançon
sur Volpon, où tout d'un coup au moment de monter sur scène pour la première, je me dis mais est-ce que j'aime le théâtre, est-ce que j'ai vraiment envie de faire du théâtre,
on ne se pose pas la question.
Et c'était un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'un de mes camarades de jeu, Grégoire Bonnet, qui jouait mon mari dans la pièce, me dit mais explose de rire et me dit mais tu sais que c'est souvent à l'envers, pourtant on essaye, parce que ma grande problématique c'était de dire mais si je n'aime pas ça, comment je le dis à ma famille. Mais ça va,
je veux être comptable, je veux être tranquille,
tout va bien, c'est une vraie passion et c'est un vrai désir. Donc,
on passe à 2005, à cette époque Marie, vous écoutiez
je peux parler.
C'est rouge.
Allez-y, Marie. N'ayez pas peur. Vous pouvez parler carrière, musique et démangeaison. Allez-y.
C'est la bande originale du film. Je n'arrive plus à être sérieuse. La bande originale du film de Cédric Lapiche, Ni pour ni contre. J'aime énormément cette chanson parce que...
On ne peut plus arrêter de rire, c'est atroce.
Voilà, point.
Okay.
J'aime beaucoup cette chanson, point. J'aime énormément, elle est belle, et tout le monde écoute, elle est magnifique. C'est I Wanna Go Somewhere, hein, je parle aussi vraiment anglais.
Mais toutes les qualités, vous avez toutes les qualités, c'est incroyable,
c'est fou. Hein.
Alors Marie, parlez-nous de ce film.
Ah, allez, ça. Daniel, reprends le... On va revenir en 62, les hommes au pouvoir.
Parce que les femmes... Vous n'avez pas tort vraiment les gars.
Ouais. Les femmes ont lâché la rampe.
En 2005, Barbara, vous écoutez. Les blagues à épées.
Et voilà, on passe à autre chose. Non, ouais.
Oui. C'est ouais, con, vous aviez voilà. une brèche mariée, hein, mais bon, vous l'avez perdu, il n'y a pas de souci.
Et c'est votre début à la télévision, Barbara.
Absolument, ouais, c'est mon premier film.
Mais
c'était 2004 d'ailleurs, mais ouais. c'est sorti en 2005. Et Le Frangin d'Amérique de Jacques Fanstein. Voilà, qui a été. Parce que moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais envie de commencer très très tôt, mais. Pour le coup, même la famille tenait un petit peu parce qu'ils voulaient qu'on soit sûr de ce choix et sûr d'entrer dans ce monde qui est quand même pas toujours facile. Mmh. Et donc voilà, là j'ai 15 ans et je viens de passer mes premiers castings et de réussir celui-là, ce très joli téléfilm de Jacques Fanstein qui se passait en 58, donc on n'était pas très éloignés.
Et ouais, déjà à l'époque. Et vous avez été voilà. récompensé par un prix, le prix Révélation et Découverte au festival de Saint-Tropez. On vous a vu les années qui ont suivi ensuite dans Camping Paradis. Pour le rôle d'Elsa, où vous incarnez la sœur de Laurent Ournac.
Absolument.
Et puis vous avez retrouvé votre rôle ensuite en 2017 dans la série, c'est
oui,
ça?
Oui, je suis repassée faire un coucou, c'était Laurent qui réalisait son premier épisode, donc j'ai été réinvitée à dire bonjour.
Ouais, ouais. Et vous avez réenchaîné d'autres collaborations, cinéma, télévision, voilà, à partir de ces années-là, 2005. C'est parti, finalement, vous n'avez jamais vraiment connu de pause?
J'ai connu des pauses quand j'ai fait les écoles, parce que ouais. J'ai fait le Conservatoire National et la LAMDA, qui est London Academy of Music and Dramatic Art à Londres. Ouais. Donc voilà, donc là, forcément, ça réduit le champ du travail, parce ouais. qu'on est complètement immergé dans les études, mais j'ai de la chance, je touche du bois, voilà.
Allez, deuxième chance pour Marie-Gina. En 2005, vous écoutiez.
Ah, on revient, tu.
Je vous laisse une chance,
oui,
parlez-nous de ce film.
Le film de Cédric Clapiche, Ni pour ni contre, qui est un vrai film de bande. Moi, j'étais la seule comédienne dans une bande de garçons. Et c'est un rôle magnifique, parce que c'est l'histoire d'une petite caméraman qui va se retrouver à devenir une gangster. Et qui a un vrai parcours qui va de la naïveté à sa part la plus sombre. Et cette musique est vraiment la musique qu'on entend à la fin du film, où elle se retrouve à Miami sur un balcon. On pourrait croire qu'elle a eu ce qu'elle voulait, et on sent que c'est un peu la déprime, quoi.
Maintenant en anglais. On passe en 2014. Oui, en 2014, Marie, vous écoutiez.
Ça, c'est la Vénus à la fourrure. Mmh.
Après 12 ans d'absence, vous faites votre retour au théâtre. Parce que c'était ça quand même, il y avait une grande pause. Et donc on se lance.
Donc on y est allé à fond.
Ouais. Mise en scène Jérémy Lipman.
Voilà, mise en scène Jérémy Lipman. Avec Nicolas Briançon, on était deux sur scène. Et c'est un texte vraiment incroyable. Et j'écoutais cette chanson en boucle tous les soirs avant de monter sur scène. Oui, quand j'ai même du mal à employer des mots, parce que ça a été une expérience magique. On a eu tout, et ça c'est tellement rare. On a eu la reconnaissance du public, on s'est éclaté comme des fous, et en plus on a eu des Molières. Donc
je l'ai vu trois fois ce spectacle.
Trois fois. Mais c'est vrai, Barbara.
J'aurais pu le revoir encore et encore. C'était une passion.
Bon, on va le rejouer dans 15 ans.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce rôle de Wanda?
C'est un rôle absolu, c'est...
Racontez-nous un peu le personnage, décrivez-le nous pour ceux qui n'ont pas vu la pièce.
Mais c'est Wanda, c'est une femme très multiple, parce qu'elle est beaucoup plus intelligente qu'elle n'y paraît au départ. Au départ, elle joue un peu une espèce de cagole qui débarque, très vulgose, et petit à petit, elle va passer par tous les états de la féminité, elle va manipuler ce metteur en scène avec qui... qui veut au départ pas du tout lui faire passer cette audition, puis elle va réussir à rester, et ensemble ils vont reparcourir la pièce que cet homme a écrit, ce metteur en scène, et elle termine en Vénus, Aphrodite, et donc c'est un rôle qui est à la fois terriblement enfantin, et où il y a une puissance, la puissance absolue, organique, volcanique de la femme, et c'est vrai que c'est des aspects de ce qu'on est, nous, femmes, que j'avais pas eu l'occasion d'exploiter jusqu'à présent, donc je me suis bien éclatée.
Oui, un rôle à plusieurs facettes,
En 2014, vous, Barbara, vous écoutiez. Mais
Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien, 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 rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits? Si tu les connaissais, tu serais stupide.
Delphine à l'ancien dans Les Demoiselles de Rochefort pour voilà. Vous, Barbara. Et à cette époque-là, vous êtes choisie par Benjamin Biolay pour interpréter le rôle principal de sa comédie musicale Office du tourisme.
Sa première réalisation, ouais. Voilà, qu'il avait faite dans le cadre des Talents Canada Mi, ouais. Que toi, tu,
ouais,
voilà,
que
tu as
fait,
on a réalisé un. Et c'était une super, enfin une aventure incroyable, tout d'un coup de débarquer, bah, de rencontrer Benjamin. Moi, je connaissais bizarrement pas tellement, enfin évidemment je connaissais
sa musique.
Non, je connaissais le personnage et tout ça, mais j'avais jamais vraiment écouté sa musique.
D'accord.
Donc j'ai découvert Benjamin, j'ai découvert l'univers de la comédie musicale. Enfin, je suis une grande fan de comédie musicale, mais tout d'un coup de me prêter au jeu et de me plonger dans cet univers qui était, en plus c'était un très beau film parce que Benjamin, c'était au moment des manifs du mariage, enfin contre le mariage pour tous. Et Benjamin avait écrit voilà cette comédie musicale qui tout d'un coup retraçait la vie d'une jeune femme parisienne, ouais. À qui il arrive toutes sortes de mésaventures et de chagrins d'amour, et tout d'un coup elle rencontre cette jeune femme seule et s'imagine que ça peut être la femme de sa vie, son prince charmante, voilà. Donc, mais c'était un très beau court-métrage que j'ai adoré faire et qu'on a présenté à Cannes en 2014.
Bah pour aller un petit peu plus loin, pour revenir à notre série, où là ça ne chante pas, mais ça swing pas mal dans Speakerine, deux épisodes encore à découvrir lundi sur France 2 à 20h55. Eh bien, on a autour de la table François Jost. Bonjour François.
Bonjour.
Vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous dirigez le laboratoire communication, information, médias et le centre d'études sur l'image et le son médiatique. Vous enseignez l'analyse, la sémiologie de la télévision, de l'audiovisuel, et vous venez de publier La méchanceté en acte à l'ère numérique aux éditions CNRS Éditions. On vous a fait venir parce que forcément vous êtes un grand spécialiste de la télé et on va revisiter avec vous l'histoire de la télé. La première speakerine, qui était-ce?
Alors c'est Suzy Vinquer, ou je ne sais pas si on dit Vinquer ou Vinquer,
ouais.
Mais bon, il faut dire...
Année
c'est en 35, il faut dire quand même que à l'époque, la télévision n'est pas du tout ce qu'on connaît. Hein. Il y a quelques postes dans Paris, dans des lieux publics.
Ouais.
Il y a 2 heures par jour, plus ou moins 2 heures par jour. Donc, d'ailleurs, le mot n'existe pas.
On ne dit pas speakerine.
Non, elle se définit, elle, dans une interview qu'on peut voir sur l'INA, comme animatrice. Elle présente simplement les gens, mais bon, il faut pas imaginer qu'il y a toute la télé vraiment est vue par très peu de gens.
Et
très peu de gens.
La première star, la première speakerine, vraiment instaurée alors, comme telle, on a évoqué tout à l'heure Catherine Langer.
Voilà, puis il y a Jacqueline Joubert qui est la première, qui est en 49, donc le mot d'ailleurs date de 49-50. Il y a Catherine Langer. Jacqueline Joubert a été quand même très importante parce qu'elle a eu aussi des émissions et puis elle a un destin dont on reparlera peut-être, mais elle arrive à diriger toutes les émissions pour la jeunesse vers les années 70-80.
Ouais. Donc elle a une histoire dans la télévision,
elle a une
dure.
Histoire très longue, ouais. Et puis elle a rencontré sur son émission sûrement comme il plaira à la speakerine, ça s'appelait comme ça, en 51. Elle a dû rencontrer Georges Decaune, je peux pas raconter leur vie privée parce que je la connais pas, mais enfin bon, après ça, il y a Antoine Decaune.
Il y a Antoine Decaune, voilà. Ça on peut le dire. ça on peut le dire. Ça veut dire qu'il y a des speakerines qui ont réussi à dépasser, à transcender le rôle.
Ben oui, on pense.
Comme c'est le personnage de Christine dans la série.
Il y en a une qui est encore très très active, c'est Hélène Delia, qui a commencé comme speakerine.
Ah bon?
Qui a commencé comme speakerine, bien entendu. Et qui aujourd'hui, donc présente la météo.
Alors quelles étaient les qualités? On a évoqué tout à l'heure le phrasé, la classe, la distinction.
Oui.
Elle venait quoi? D'un même monde, d'un même profil social? Parce que là on a deux exemples assez différents.
Non, c'est assez varié en fait le profil des speakerines. Souvent elles avaient en commun de vouloir être comédiennes ou de hôtesse de l'air aussi pour certaines. jouer de la représentation de leur physique. Alors leur qualité bien sûr c'était la clarté, c'était aussi il n'y avait pas de prompteur. Donc il fallait avoir une certaine mémoire et surtout elle devait très souvent meubler les temps morts parce que il y avait énormément de pannes dans ces débuts de la télévision. Et Jacqueline Joubert par exemple a meublé une fois pendant 45 minutes l'antenne
45 minutes
faire attendre les spectateurs parce qu'il y avait des pannes techniques très 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 souvent.
C'était vraiment des stars au niveau de la population française et puis des hommes aussi, j'imagine que les choix étaient souvent dictés par les directeurs de programmes de l'information et par le public.
Oui, ce sont des stars parce que En 54, le directeur de la télévision, qui s'appelle Vladimir Porcher, explique qu'il faut regarder les yeux dans les yeux, que c'est fondamental, que c'est ce qui crée l'intimité, alors qu'au cinéma, on n'a pas le droit de regarder dans la caméra, mais que c'est ce qui va créer l'intimité avec le public. Et donc, elles devenaient un peu des personnages de la famille, ces speakerines.
Elles entraient dans le salon des gens, ouais.
Voilà, et à tel point que souvent, elles recevaient des lettres où on leur disait, si vous avez bien lu ma lettre, faites un petit signe avec la main, ou ne bougez pas à tel moment parce que je vais vous photographier.
Ah,
donc il y a des tas de lettres comme ça qui montrent qu'il y avait une sorte de familiarité très grande. Et
déjà surtout, beaucoup de pervers.
Et surtout avec Catherine Langer, alors ouais. Qui est devenue la vraie vedette. Et
est-ce qu'il y a eu des hommes?
Olivier Mine.
Olivier, oui, il y a eu Olivier Mine, il y a eu
Simpson John.
Admirable.
Absolument.
Ça marchait aussi bien. Ça a été plus tardif, l'apparition des hommes.
Oui, ça c'est beaucoup plus tardif. Ouais. C'est vers la fin. Les speakerines terminent en 92. Donc ça c'est effectivement plutôt, je sais plus, vers les années 80.
Ouais. La première émission présentée par une femme, alors on peut la dater.
Moi je dirais que c'est toujours difficile ce genre de choses, mais notamment l'émission qui s'appelle Comme il plaira à la speakerine. Qui est en 51, dans laquelle Jacqueline Joubert recevait parfois des sociétaires de la Comédie Française ou des gens très, 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 comment dire, d'un niveau catégorie élevé, et leur faisait faire le contraire de ce qu'ils étaient, par exemple, du patin à roulette, ou dire un texte très prosaïque pour un artiste, etc. Et donc, oui, cette émission, je pense, c'est une des premières. Et puis, il y a eu Jacqueline Cora, qui a une émission sur la téléphilatélie aussi. Il y a eu quand même des émissions.
Denise Glaser, un petit peu après.
Mais elle n'était pas speakerine. Mais je crois qu'il y a dans le film, dans la série de speakerine, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que vous Marie Gillin, vous préparez une émission pour les femmes. Et là, je pense que ça s'inspire du personnage d'Eliane Victor, qui a eu très tôt, en 64, une émission sur les femmes,
d'accord,
qui était très féministe, si on peut dire, par avance.
Déjà avant-gardiste, d'une certaine façon.
Oui, parce qu'elle recevait des femmes anonymes, mais elle les mettait en valeur et elle rentrait dans leur vie. C'est l'émission Les Femmes aussi qui commence en 64. Donc on pourrait penser que c'est à peu près le modèle de Christine Beauval.
Alors un autre aspect aussi qui est très intéressant dans la série, au-delà de l'émancipation de la femme, de ce statut de speakerine, c'est aussi le lien assez étonnant entre, étonnant aujourd'hui, hein, j'entends par là, entre le pouvoir et les journalistes, la rédaction. Est-ce que la télévision française était vraiment soumise à l'État?
Oui, bien sûr.
C'est un outil de propagande, en fait.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, jusque dans les années, jusqu'à De Gaulle, il y avait beaucoup de communistes qui avaient fait la résistance et qui étaient réalisateurs à la télévision. Et après, avec De Gaulle, c'est vrai qu'il reprend en main la télévision parce qu'elle commence à avoir 1,5 million de postes au début des années 60. Donc, plus il y a de postes, plus la politique s'y intéresse. Et il faut savoir que dans cette maison, qui est la maison de la radio et qui était la maison de l'ORTF, il y avait un bureau du ministre qui relisait les conducteurs de JT, donc les sujets abordés par le journal télévisé.
Il existe toujours, vous savez.
Il existe. Et il y avait ce qu'on appelait un enfer où vraiment on mettait les sujets, par exemple sur l'Algérie, etc., qu'on supprimait.
Comme dans les bibliothèques, quoi, les livres.
Comme la bibliothèque nationale.
Voilà,
l'enfer.
On le met dans l'enfer. Et qui a été les premiers rebelles qui sont les journalistes ou les hommes des médias qui ont commencé à s'ériger contre cette mainmise du pouvoir?
C'est assez difficile parce qu'en fait, il n'y en a pas tellement, à part 68, où il y a vraiment. Sinon, je dirais que peut-être Anne-Marie Pesson, qui notamment a eu un enfant et qui a présenté des émissions avec un enfant dans le ventre, ça a provoqué un scandale. Une discussion pour savoir si on pouvait présentatrice avec enceinte. Donc voilà. Et elle a résisté. Oui. C'était peut-être une de celles qui était la plus, dissidente.
Eh bien, merci beaucoup François Josse. Je rappelle, vous venez de publier La méchanceté en acte à l'ère numérique. Là aussi, il y a beaucoup à dire.
Ouais.
CNRS Édition, merci pour votre éclairage et votre expertise. Merci à vous.
Et nous sommes ensemble là jusqu'à 12h30 pour Speakerine, la série de France 2. Attention, les deux derniers épisodes sont lundi. C'est
que
sur France 2 à 20h55.
Est-elle vivante, Christine?
Est-elle vivante? Ouh là là, nous sommes en compagnie de Marie-Gilla de Barbara Proust. En deuxième heure, Tanguy Pastureau démontrera l'info. Mais il est déjà là. Oui. Et Tanguy, vous serez d'accord avec moi, on serait tellement bien là, tout de suite, maintenant, en vacances, en Égypte.
Oui, à visiter les pyramides et contempler voilà. Les hiéroglyphes, des dessins de chats qui rappellent ceux qu'on voit sur les sachets de Whiskas aujourd'hui, mais en moins bien fait. L'Égypte qui nous a apporté le meilleur, la civilisation des pharaons, comme le pire, Orlando, le frère de Dalida, fascine, et les momies aussi. Ça tombe bien, il y a une double actu momie, Daniel, ce mois-ci.
Ouais. Double actu momie, j'ai hâte d'entendre ça. C'est l'heure de la deuxième partie de l'émission, on se retrouve juste après les infos sur France Inter. Et le retour de la bande originale, dernière bande originale, Sonagui, mais, avec Tom Villa.
Bonjour.
Albert Agou.
Bonjour.
Marina Rollman.
Bonjour.
Dans quelques instants, Tanguy Pastureau pour La Maltraitance de l'Info. Et bien sûr, à mes côtés, Lila Kadour Boudadi.
Salut Daniel Morin, bonjour à tous nos invités, Marie-Gilla et Barbara Poste. Ne manquez pas lundi à 20h55 sur France 2.
Les deux derniers
épisodes de la série Speakerine qui nous plonge dans les années 62.
Je fais une musique d'angoisse.
Vas-y. Oui, il y a du suspense parce qu'on s'est arrêté au quatrième épisode
jusqu'au
sur cet
bout.
Attentat de l'OAS. Qui en seront les victimes? Qui va réchapper à cet attentat? On le saura forcément lundi à 20h55. On vous en dit rien. Mais tout ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'on n'est pas déçus par la suite de cette série. On se demande même si on envisage une suite ou de continuer dans cet univers.
Mais 68, il y aurait
quoi
dire.
Ouais, c'est dans les tuyaux. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui a été déjà décidé avec Laurent Tuel ou
non,
avec.
Nous, on n'a pas l'air au courant.
Non, mais en tout cas, on s'est dit plusieurs fois que ça pourrait être une saison 2 vraiment passionnante.
Ouais. Il pourrait y avoir suffisamment d'intrigues, plus d'événements historiques. Je rappelle le casting, Guillaume de ton Québec, qui incarne votre mari, Marie Gillin, très ambitieux, et qui ne veut pas mettre sa carrière entre parenthèses pour celle de sa femme, mais qui demande à sa femme d'en faire de la sorte, à vos souhaits. Grégory Fitoussi, Christiane Millet, Barbara Probst, vous êtes avec nous, Anne-Sophie Soldeni, Baptiste Carion-Weiss, Clément Aubert, donc une série réalisée par Laurent Tuel. Je crois que c'est une idée de Valentine Milleville et de José Caltagirone.
Absolument.
Voilà, pour cette série dont
chaperonnée par Charline de Lépine.
Charline de Lépine, voilà, qui était celle qui était la mieux renseignée, particulièrement renseignée sur cette époque.
Attention, il maltraite l'info, il est connu pour ça.
Mon Dieu.
C'est Tanguy Pastureau. Wow. Tanguy, l'Égypte, ça m'a toujours fait rêver.
Oui, je sais Daniel, mais je pense que c'est parce que Nagui n'est pas là et que vous vous raccrochez à sa présence, car comme tous les seniors, vous n'aimez pas qu'on bouscule vos repères. L'Égypte, c'est super, pas celle d'aujourd'hui. L'Égypte rétrograde du maréchal Al-Sissi, c'est comme Al-Oui-Oui, mais en plus insistant. Car comme l'ensemble des pays, sauf Dubaï, où il y avait du sable et où maintenant il y a des beaufs et des poufias prêts à défoncer la planète en EasyJet juste pour poser leur raie dessus, l'Égypte était plus développée du point de vue civilisationnel avant que maintenant. Alors quand je dis avant, c'était il y a longtemps, au moins en 200 avant Alain Juppé, c'est-à-dire au temps des pharaons. Le pharaon, c'était le boss dans l'Égypte antique, l'équivalent de Macron, mais en moins péchu, bien qu'étant aussi autosatisfait. Il était considéré comme le fils du soleil, alors que Jean-Pierre Foucault chez nous est considéré comme celui du point soleil. Et pour lui parler, il y avait tout un cérémonial, puisque le SMS commençant par « ça va ma couille » n'existait pas. Avant d'approcher le pharaon, tenez-vous bien, on se prosternait. Sauf ceux qui avaient une hernie discale, hein, restaient debout et donc étaient exécutés, ce qui était le meilleur moyen à l'époque de régler un problème d'hernie discale. Puis on devait flairer la terre, comme José Bové quand il plante ses carottes bio, et se traîner sur le sol, alors que le chat machine n'existait pas. Il y avait juste le chat normal, celui qui pue, et que l'Égyptien vénérait parce qu'il n'y avait pas de lave-linge devant lequel s'extasier. À sa mort, le pharaon fusionnait avec le maître du royaume de l'au-delà, c'est le même principe que le père Fouras, mais sans énigme. Hein, parce que déjà toute la journée, le pharaon épuisé devait se taper des hiéroglyphes. Quand la pharaone lui laissait un mot pour dire « je suis allé faire les courses », elle dessinait un caddie, des bonbons pèse et la carte Monoprix. Et le pharaon s'exclamait « mon Dieu, c'est-à-dire moi ». Vivement que Jawed Ben Daoud invente l'arabe moderne, hein, voilà cousin bien ou bien, parce que là je piche que dalle. Bref, le pharaon dans l'Égypte antique, c'était un VIP, hein, comme François Morel à France Inter ou Bayrou nulle part. Ce qui fait que quand il mourait, on l'enroulait dans des bandes de
fait, selon la technique du NEM, mais en plus frais, afin qu'ils se conservent. Les Américains ont fait la même chose avec Sharon Stone et du Botox. Et les momies, ça nous passionne toujours. Il faut voir la frénésie qu'il y a autour de Gérard Collomb. Ainsi, il y a quelques jours, on a fait appel au FBI. Hein, ces gens qu'on voit dans les séries étrangères entre deux pubs cochenous qui nous rappellent notre fierté d'être français, pour qu'ils identifient une momie. Alors, je vous explique. 1915, des archéologues américains découvrent un sarcophage, hein, l'ancêtre de la tombe Roque Éclair. Seulement, le corps de la momie est désintégré et la tête est posée sur la tombe. Or, Mélenchon n'est pas encore né. Donc, on sait qu'il ne s'agit pas du corps d'un patron du CAC 40 qui l'aurait croisé.
Mais Tanguy, je suppose, parce que je touchais un peu en égyptologie, que c'était l'œuvre de pilleurs.
Oui, Léla, vous êtes une encyclopédie en 12 volumes, mais en moins lourde. Des types sont passés avant, ont pris les objets de valeur, les bijoux de la momie, son iPhone moins 12, et l'ont décapité pour s'amuser. Hein, les pilleurs de sépulture n'avaient pas xvideo.com et passaient le temps comme ils pouvaient. Les égyptologues se demandaient donc si la tête correspondait au corps trouvé, ou si les mecs avaient tout mélangé comme quand on démarre une crapette. Ils ont alors appelé le FBI, qui a dit « Oui, mais nous on fait les morts récentes, des noirs abattus par des flics parce qu'ils transportaient une baguette tradition et que les flics ont cru que c'était un fusil d'assaut. » Enfin, ce genre de truc. Ils finissent par accepter et comparent l'ADN du corps à celui de la tête. C'est la première fois que le FBI fait ça sur une momie. Hein. Et pif, comme on dit chez les communistes, ils réalisent que c'est la même personne. Et ils l'identifient même. Il s'agit de Jehu Tinak, un guerrier, hein, l'équivalent de Clémence de Koh-Lanta aujourd'hui, mais en propre. Alors, le FBI, ils sont très forts. Hein. Vous leur filez un corps vieux de 4000 ans, et ils vous disent « Oui, il s'agit du fils du neveu de Toutankhamon, soit Agamemnon, soit Benoît Hamon. Voilà, merci, au revoir. » À noter qu'à l'hôpital de Fougères, seule ville qui porte le nom de ce qu'on trouve dans les bois environnants, c'est comme si le Cap d'Agde s'appelait Capote. Eh bien, ils ont passé, il y a 3 semaines, au scanner, hein, une autre momie, rapportée au 19e siècle par un notable du coin. Il n'y avait pas de boule à neige, donc comme souvenir, on embarquait une momie. Hein, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Pas par éthique, bien sûr, hein, mais juste parce qu'XL Airways nous compterait la momie en supplément et que ça coûterait une blinde. Donc, normalement, dans le scanner, on met des gens vivants, hein, qui, alors que l'infirmier plisse le front parce qu'il est en train de repenser à la fin de la Casa des Papel, interprète ça comme un signe annonciateur de l'annonce de leur mort imminente. Mais jamais on n'avait fait ça avec une momie. Si bien que après scanner, on a pu dire quand même que c'était une femme et que, surprise, elle n'avait ni poils du pubis, ni cheveux. Hein, en Égypte, ils étaient peut-être très radicaux sur l'épilation intégrale. Quand Cléopâtre allait chez Body Minute, elle disait « Les amis, vous me retirez tout, même les sourcils, Zarma, je vais être plus lisse qu'un galet de la plage de Nice, sur lequel se serait frotté cette génération de cagoles. » Donc, c'est un mystère. Alors, on sait quand même que cette dame a vécu entre moins 1000 et moins 750. Pas tout ce temps, bien sûr. Seul Michel Drucker fait ça. Hein, et c'est tout. Voilà. Parce qu'on a beau les passer au scanner, appeler le FBI, demander à Régine « Est-ce quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse ?» Eh bien, il faut bien que les momies gardent un peu de mystère. Ça nous fait rêver. Et ça, c'est important.
Merci, Tanguy Bastion.
La bande originale.
Aucun respect. Aucun respect.
Speakerine sur France de lundi à 20h55, les deux derniers épisodes de cette saison consacrée à ce personnage, à ce destin de femme que vous incarnez, Marie Gillin, une vedette de la RTF en 1962, qui ne veut pas simplement être cantonnée à un rôle de potiche, de plante verte décorative, qui veut prendre son destin en main. Une histoire romanesque aussi qui mêle un thriller haletant. Forcément, son personnage est en danger, il faut déterminer qui lui en veut à ce point. Une sorte de Mad Men à la France. J'ai envie de dire, il y a quand même ça dans l'esthétique, même dans le générique avec la musique d'Éric Truffaut.
Oui, complètement. Bah, moi, je suis une fan inconditionnelle de Mad Men. Donc, ouais. C'est vrai que quand on touche à cette époque, on a un peu un rêve secret. Est-ce qu'on va toucher un peu ce qu'ils avaient réussi à faire, parce que c'est vrai que Mad Men, c'est plus c'est une vraie chronique de l'Amérique, chronique aussi au travers de du monde de la pub, mais aussi de la vie de famille et ce qu'on retrouve dans Speakerine. Alors c'est vrai que dans Speakerine, on est plus, comme vous le disiez, il y a une vraie intrigue policière et romanesque, alors que dans Mad Men, il y avait des épisodes entiers où il se passait pas grand chose, où on était plus on avait le plaisir rien que d'être avec eux dans leur bureau. Point commun aussi, c'est que ça fume beaucoup.
Oui, alors ça c'est fou.
C'est
un hymne à la cigarette. Mm-hmm. Je sais pas combien de cartouches en un épisode. Quoi. Et puis ça fumait partout. C'est quelque chose qu'on n'a pas connu, ça.
Bah, on l'a un petit peu connu, mais c'est vrai que ça fume partout.
Oui, c'est vrai, maintenant j'ai l'impression qu'on fumait. Enfin,
oui, ça semble très loin. Vous êtes encore très jeune.
Oui, non, pas, je le cache bien, je sais bien. Et votre personnage, ou Barbara Props, fait penser à Elisabeth Moss aussi dans Mad Men.
Oui, c'est vrai.
Celle qui arrive au bureau après.
Qui découvre et qui vient un peu se plonger là-dedans. Mais non, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, enfin. Moi, la plus grande référence, ce serait, enfin, c'était un petit peu plus Anne Baxter dans All About Eve. Dans une autre période, mais dans cette approche un peu plus, complexe et comment on pourrait dire, qui vient admirer Christine Beauval et vouloir par fascination vouloir se rapprocher au plus près. Voilà.
Quelque chose d'assez inquiétant dans la relation que vous voulez entretenir en tout cas avec cette reine Christine tout simplement. Donc deux derniers épisodes sur France 2, ce sera lundi et on a hâte.
Mais combien de clopes vont être fumées dans ces deux derniers épisodes? Ah, ça la réponse juste lundi. Feel Good Incorporated, Gorillaz dans la bande originale.
Let us break it down on
Feel Good Incorporated, c'était Gorillaz dans la bande originale sur France Inter. Et nos invités du jour dans cette bande originale sont Leïla.
Marie Gillin. La rieuse Marie Gillin.
Accompagnée de... C'est pas mal aussi dans le genre.
Et Barbara Probst pour la série Speakerine.
Les deux derniers épisodes sont
diffusés lundi.
À quelle heure?
20h.
Sur quelle chaîne?
55. France 2.
France 2. Jean-Jacques Lang a fait un rêve et il va nous le raconter dès maintenant.
Ah oui!
Parfois, au petit matin, le retour de chez moi après un after de folie au Banana Café,
évidemment.
Quand je me glisse sous ma housse de couette Griffe et Kenzo, je m'endors, mais je suis tellement harassé, épuisé, exténué, squinté, lessivé, des tas de trucs en haie que je n'ai même plus la force de rêver. Oui, j'ai l'imagination figée, un peu comme celle de mon très cher ami Albert Algou, quand sur le point d'écrire un sketch, il lui arrive de se retrouver complètement à court d'idées. Alors, comme lui, dans ce cas-là, pour rêver, je me raccroche à ce que je peux. Par exemple, je consulte le calendrier républicain que m'a offert mon cousin Jacques, dont je partage évidemment les convictions et aussi résolument progressistes et républicaines. Et cette nuit, j'ai vu que le 27 avril, 8e jour du mois de Floréal, était le jour du champignon. Le champignon, bon sang, mais c'est bien sûr. J'avais la solution à ma pénurie onirique. Je me précipitais à la cuisine pour me préparer une omelette bien baveuse au psycholocybe guatémaltèque et à l'ergot de seigle. Et quand je mange une omelette bien baveuse au psycholocybe guatémaltèque et à l'ergot de sel, je suis défoncé comme un parmètre. Comme un parmètre qu'il serait par des enfants moldaves. Merci, Jenny. Et quand je suis défoncé comme un parmètre par des enfants moldaves, je m'endors. Et quand je m'endors, je rêve. Dans mon rêve, alors que j'errais dans les couloirs de France Inter, dont les parois mouvantes s'illuminaient de lumière psychédélique, je rencontrais Jean-Pierre Coff, le cousin du regretté gastronome. Celui-ci semblait désemparé, désœuvré, désorienté. Des tas de trucs commençant par D et finissant par I. Mon cher Jean-Pierre Coff, qu'est-ce qui vous arrive? Vous, d'habitude, si réactif. Vous, toujours une grosse queue de casserole à la main, mon cousin. Vous voilà bien oisif. En ce moment, Gigi, j'ai la cervelle complètement flagada. Un peu comme celle de mon ami Albert Algou quand, sur le point d'écrire un sketch, il a l'imagination encore plus vidée qu'une pintade dont je viendrais d'entailler le croupion pour en retirer le gésier, les boyaux et les rognons. Plus une seule idée de recette. Mais enfin, Jean-Pierre, c'est la journée du champignon. Mais champignon, Gigi, c'est de la merde. Décidément, rien ne tournait rond dans ce rêve. C'est alors que Jean-Roger Navarro, le neveu du plus vieux commissaire de l'univers, fonçait vers moi. Ah, tu sais, Gigi, je te soupçonne que ta tête à toi, elle soit aussi vide que celle de ton ami Albert Algo quand c'est qu'il doit écrire un sketch et qu'il a zéroïdé Makash Bono dans sa cervelle à lui. Et donc, pour savoir si ta caboche, elle sonne aussi crue que le couscoussier en alu de tonton Roger, quand c'est qu'il l'avait vidé de son reste de smoule, pour savoir, je vais utiliser le bottin de Babelouette de mon oncle, du temps de l'OS et des speakerines que vous parlez aujourd'hui, il se servait pour extorquer des aveux sans laisser de traces de coups aux enfants de Chamel qui l'interrogeaient. Viens là, Gigi. Mais qu'est-ce que vous faites, cher mes accessoires? Mais qu'est-ce que vous faites, Jean-Roger? Nom d'une colonne de Buren, lâchez-moi. Tiens, écoute bien. Ça, c'est ta tête. Ça, c'est le bottin de Babelouette. Et ça, putain, qu'est-ce que j'ai fait de mes accessoires? C'est le bottin de Babelouette sur ta tête. Et ma parole d'honneur, je sais, en régie, ils n'avaient pas le son qu'il fallait. À Carby, je te jure, ça sonne creux. Je recommence. C'est alors... Ça, c'est de la radio. C'est alors que je me réveille en proie à un terrible mal de tête, et la gamelle de mon chien en plus. Et j'allais ouvrir ma porte à laquelle frappait mon ami Albert Algou, qui enfin venait me demander de jouer dans le sketch qu'il venait enfin d'écrire avec son aisance habituelle. Bonne fin d'émission.
Merci Jean-Jacques Lang.
La bande originale.
Et ouais, c'est aussi un comédien, Albert Algou. On a eu la démonstration en direct. Et
c'est puis
un accessoiriste.
Et son demi-cul de poule.
Forcément.
La gamelle de mon chien.
Ah, oui, ben tiens, mais bravo, bravo. Revenons à Speakerine, où finalement il y a aussi un parallèle entre le statut de Speakerine à l'époque. On est en 1960, on l'a dit. Ces femmes sont souvent cantonnées à un rôle un petit peu décoratif, même si certaines d'entre elles cherchent à s'émanciper. Et
d'ailleurs, il y a toujours une vraie plante verte à côté des Speakerines.
Hein. C'est vrai.
Le retour du glaïeul.
il y a une plante verte ou il y a un bouquet de fleurs, enfin quelque chose de très ornemental.
Tout à fait.
Un petit rideau derrière.
Ouais. C'est fou. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir ça d'aujourd'hui. Et il y a aussi un parallèle à faire peut-être entre la speakerine qui est quelque part dépendante du désir aussi du directeur de l'information et la comédienne dans une il y a quelques années, c'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a peut-être un parallèle aussi à faire entre ces deux statuts.
Bah, on peut carrément faire le parallèle.
Même aujourd'hui.
Peut-être encore aujourd'hui. Bah, sans rentrer dans. Mais on voit que ce qui se passe dans cette série, le rapport pouvoir séduction, cette jeune speakerine qui a très bien compris comment fonctionnent ces messieurs, on voit que c'est très très contemporain.
Ouais, que ça peut encore poser c'est ce genre de questionnement et puis les humiliations aussi subies par les femmes parce que le pouvoir est aux hommes, quoi.
Oui, et puis comme on fait des métiers où on dépend du désir des uns et des autres, je dirais que le besoin d'être choisi, le besoin de plaire peut prêter à confusion.
On peut envoyer un mauvais message ou en tout cas on peut le recevoir différemment.
Tout à fait.
C'est ça.
Le recevoir comme ça vous arrange.
Vous le percevez comme ça. L'attrait pour la célébrité, par exemple, c'est aussi un parallèle qu'on peut faire entre les speakerines et le monde des comédiens et des comédiennes.
Enfin, oui, et même au-delà de ça, je pense, moi, ce qui me marque beaucoup dans la série, c'est le moment, c'est dans les premiers épisodes qui sont déjà passés, mais du coup, Marie qui se questionne sur le fait que, enfin, elle ne cherchait pas cette célébrité et elle se questionne sur le fantasme que ça projette sur les spectateurs, que les spectateurs projettent sur elle plutôt, mais et qui est très présent aujourd'hui, où je pense chaque personne qui regarde la télévision a la sensation que les présentateurs ou les célébrités dans leur petit écran fait partie de leur quotidien
famille,
et de
leur famille.
Voilà. Mmh. Oui, puis le monde de la télévision est un monde très, très hiérarchisé, et on le voit bien, que leur espace de liberté à ces speakerines, il est quand même très très réduit et qu'elle doit rendre des comptes régulièrement. J'arrive pas à faire des fins de phrases.
C'est pas une phrase. Parce qu'on attend. On attend cette bonne phrase, Marie-Gilles. Parlons des projets. Hein, parlons des projets dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent.
On a déjà trouvé un dermato.
Marie-Gilles. Alors, je laisse Barbara d'abord. Je vous laisse récupérer.
Oui,
Barbara, les projets dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent.
Dans les heures qui viennent.
Des séries.
Moi, j'ai un joli film réalisé par Safia Azedine.
Oui.
Écrit par Safia Azedine et co-réalisé par Safia et François-Régis Jeanne, qui s'appelle Demi-sœur, et qui sortira le 30 mai au cinéma.
Ok, voilà pour les projets. Vous, Marie?
Je suis là pour finir vos phrases, hein,
Catherine. On réceptionne.
Non, moi j'ai un projet de parce que j'ai réalisé un court-métrage l'année dernière pour les Talents Canadami.
Qu'on avait vu ici.
Voilà, et en ce moment, Martin Darondo, Félix Martinez, Elisa Rusque et Juliette Doucet, quatre comédiens géniaux. Et là, j'écris un long métrage avec une scénariste. Et donc, mes journées, c'est peut-être pour ça aussi que je suis vraiment dans le délire de l'écriture. Et donc, ça me prend un temps
beaucoup
fou
temps.
Et beaucoup de plaisir. Ah oui.
Et donc, on s'attend à voir ce long métrage quand
bon, on va déjà réussir à écrire un scénario les prochains mois et puis rendre une belle version. Et puis ensuite, on rentrera en production.
Et il est quand même temps de vous présenter nos excuses.
Oui,
présenter
bien sûr beaucoup d'excuses. Ouais. Désolé déjà pour les journalistes de TF1 qui, en entendant l'émission ce matin, ont cru qu'on parlait de leur vie professionnelle actuelle. Non, non, les amis, c'était le RTF en 1962. Non, c'était pas maintenant. Désolé pour Nicole Garcia, Michel Drucker, Nicolas Briançon et tous les glorieux anciens qui ont été moqués, violenté, souillé, humilié par Barbara Probst. L'inconscience, la jeunesse. Ça sent le Pôle emploi, mademoiselle, tout ça. Désolé pour nos auditeurs anti-transgenres qui ont été choqués, outrés. En même temps, un petit peu excité par la révélation de Marie-Gilles sur son anatomie surprenante qui lui permet, je la cite, de se gratter les couilles. Et c'est ça, les femmes en 2018, les amis.
C'est dégueulasse de voir sa carrière résumée à cette phrase. Voilà, Marie-Gilles, c'est toujours un bonheur de vous avoir avec nous. Merci également à vous, Barbara Probst. Et on rappelle Speakerine, cette très bonne série diffusée sur France 2, les deux derniers épisodes. C'est lundi, vous n'avez plus que trois dodos à attendre. Deux dodos, c'est quoi? Je ne sais plus jamais. Trois dodos.
Samedi, dimanche.
Trois dodos pour connaître la suite. Mais ouais, mais j'aime bien. Pour connaître la suite de cette série, c'est à 20h55 sur France 2. Merci à toutes les deux.
Merci, merci beaucoup.
Merci. Et lundi, cette fois avec Nagui, on recevra Alain Chamfort. À suivre, carnet de campagne, Philippe Bertrand. Bonne journée, excellent week-end à l'écoute de France Inter. Merci, mademoiselle.
Merci, Léla. Merci, Daniel. Et à lundi avec l'équipe au complet.